Leçon numéro 1, ouvrir son ordinateur. Leçon numéro 2, choisir le niveau de A1 à B2. Cliquer, démarrer, commencer, dire bonjour, se présenter, je suis apprenant en français, c'est un début. En classe ou en distanciel, oh quel vilain mot, et pourtant...
Pascal Paradou.
Covid-19 et après, voici le thème de la troisième édition de la Journée internationale du prof de français qui se déroulera demain, 25 novembre, un peu partout dans le monde. L'occasion de mettre à l'honneur les enseignants qui font rayonner cette langue, sans eux, point de francophonie. L'occasion aussi de faire le point sur la façon dont la pandémie de Covid a bouleversé les méthodes d'enseignement. Donc nous allons voir ce qui s'est passé à Madrid, Bucarest ou Abidjan, voir aussi avec Déborah Gros comment le site RFI Savoir a évolué. Bonjour Déborah.
Bonjour.
Vous êtes chargée de projets pédagogiques donc sur le site RFI Savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Un afflux de fréquentation ces derniers mois?
Alors c'est le plus parlant effectivement, puisque les chiffres le montrent bien. On était environ à 250 000 visites par mois avant le Covid et puis on est passé à environ 400 000 visites par mois.
Cocorico.
Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces utilisateurs arrivent sur le site et quand on analyse la provenance des clics, en fait on voit que de plus en plus, ils arrivent depuis les réseaux sociaux, depuis des sites et des blogs et depuis ces plateformes que les profs utilisent pour intégrer les exercices et les quiz de RFI Savoir. Donc on voit que c'est plus un accès direct, mais que des utilisateurs sont déviés, dérivés vers RFI Savoir et vers toutes ces plateformes de ressources.
Et ce n'est pas le seul score d'RFI Savoir parce qu'il y a des plateformes qui se multiplient un peu partout.
Oui, alors ça c'est un vrai phénomène et d'ailleurs des écoles de langue référence en France comme le Cavilam à Vichy ou le Centre de linguistique appliquée à Besançon ont créé à leur tour des sites de ressources gratuites ou payantes pour répondre en fait à cette demande et pour augmenter la boîte à outils du prof.
Alors avec nous, Patrick Carle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Madrid, vous enseignez à l'Institut français, mais vous faites aussi de la formation, notamment pour les profs qui travaillent en Afrique. Que peut-on dire sur cette relation entre numérique et distanciel? Est-ce que le numérique s'est imposé durablement dans l'enseignement du FLE?
Je crois que oui. Hein. En fait, je crois qu'il n'y a pas eu vraiment une révolution entre l'avant-Covid et l'après-Covid, mais je pense que les frontières entre le présentiel et le distanciel sont beaucoup plus poreuses, justement, comme le disait Déborah, parce que les professeurs ont découvert beaucoup d'outils et ça a permis de faire évoluer un petit peu leurs pratiques.
Ça ne fait plus peur, donc, le numérique?
Non, ça ne fait plus peur. Hein. De toute façon, on a expérimenté une immersion forcée. Et maintenant, je pense qu'on a envie, évidemment, de retrouver le présentiel. C'est un peu paradoxal parce que le distanciel nous permet de sortir des murs, mais on a en même temps envie de rentrer dans nos murs tout en prenant le meilleur des outils numériques. On a en quelque sorte, si vous voulez, un présentiel un peu enrichi, avec une maîtrise, à mon avis, meilleure des outils de la classe virtuelle.
Vous allez nous donner des exemples pratiques, mais je voudrais aussi interroger Mariela Constantinescu, qui est à Bucarest. Bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez surtout le français de la communication professionnelle. Est-ce que vous avez dû vous adapter comme prof?
Bien sûr, je me rappelle très bien le début du mois de mars 2020, lorsque on a été obligé de fermer les portes au public de l'Institut français vu le contexte sanitaire. Et alors, il y a eu l'urgence à se réinventer. Et donc... La direction, la coordination pédagogique, toute l'équipe du pôle enseignement de l'Institut français de Bucarest s'est fortement mobilisée pour que d'un côté, l'enseignement du français continue et que de l'autre côté, cet enseignement soit assuré sur les mêmes critères d'excellence qu'auparavant. Alors, on a fait des formations en interne pour déjà améliorer la manipulation des outils informatiques. Et puis, on a assisté à de nombreux webinaires pour intégrer différentes approches d'enseigner. En ligne.
Patrick Carle disait « ça n'est pas la révolution, mais quand même, ça a beaucoup bougé ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que ça n'est pas une révolution, mais quand même, ça a secoué?
Ce n'est pas une révolution dans le sens que l'enseignement en ligne n'a pas été créé par la pandémie. L'enseignement à distance a toujours existé. maintenant, il a été question de réfléchir comment l'intégrer. Et oui, la réponse est plutôt positive dans le sens que il est légitime, il a gagné sa légitimité. Et maintenant, on peut alterner en enseignement présentiel et enseignement distanciel sans problème.
Autre écho du côté d'Abidjan. Bonjour Céline Desbos.
Bonjour.
Vous êtes directrice du pôle français de l'Institut français de Côte d'Ivoire. Vous consacrez demain une journée de réflexion à l'occasion de cette journée internationale avec cette question. Prof, un nouveau métier, point d'interrogation. Donc ça aura lieu demain, mais j'imagine que vous avez une petite idée déjà de la réponse.
Tout à fait. Alors sans vouloir influencer les échanges de demain, on a pris en compte les changements, les modifications de pratiques et d'outils qui sont nés à la faveur ou sous la contrainte de la crise sanitaire pour ensuite voir en quoi aujourd'hui ils étaient encore présents dans les classes et de quelle façon ils étaient maîtrisés, utilisés au quotidien par les professeurs. Donc bien entendu, on va aborder l'outil numérique, mais pas que, puisqu'on souhaite aussi mettre en avant les changements, les modifications et les adaptations au niveau des manuels scolaires. On va aussi aborder le sujet des pratiques de classe. Aujourd'hui, comment se construit la relation pédagogique avec les contraintes liées à la crise sanitaire, le port du masque, la distanciation qui perdure, même si on a repris en présentiel. On va aussi aborder les nouvelles attitudes des apprenants qui ont gagné en autonomie, qui sont plus connectés. Et enfin, on va faire aussi entrer dans le débat les parents qui sont désormais de véritables acteurs d'apprentissage puisqu'ils ont été sollicités en tant que relais des professeurs pendant le confinement. Et désormais, c'est vrai, ils font partie du paysage éducatif. Donc effectivement, pour ne rien vous cacher, je pense que la réponse à la question « professeur, un nouveau métier » et de fait, tout trouvé.
Donc la réponse est oui. La Covid et après, dans l'enseignement du FLE, on en parle, mais après Lou Adrienne Cassidy, nouvel album de cette artiste québécoise.
Écoute-moi. Sors de ton brouillard, regarde autour de toi. Prends le chemin le plus court pour une fois.
Écoute-moi, écoute-moi. Tu veux pas mourir avant de voir, s'il te plaît, écoute-moi. Arrête de chercher.
Lou Adrienne Cassidy vous dit bonsoir, c'est le titre de cet album où l'on trouve ce titre Écoute, titre assez adapté à la radio, à RFI, mais aussi à la classe. Demain, journée internationale des profs de français, et je reviens avec vous Céline Desbos, donc directrice du pôle français de l'Institut français de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a, selon vous, une spécificité africaine à cet enseignement du français langue étrangère? Je parle d'un contexte linguistique, mais je parle aussi des difficultés parfois d'accès aux outils numériques.
Oui, il va sans dire que les contraintes techniques modifient le contexte d'enseignement. C'est vrai que les connexions Internet ne sont pas toutes stables en fonction des endroits et les coupures électriques peuvent parfois pénaliser les enchaînements de classes. Il n'en reste pas moins que avec le téléphone portable et d'autres les modalités de connexion mobile, on peut utiliser, mais à travers d'autres outils, le numérique. Et sinon, vous parliez également du contexte linguistique. Effectivement, le français que l'on enseigne dans la région, donc à Abidjan et au-delà, Afrique de l'Ouest, est un français en contexte plurilingue, qui est rattaché à une culture francophone. Donc, on est sur d'autres références et on joue aussi avec les apports des langues régionales sur le français et réciproquement.
Il y a un partage d'expérience possible entre ce qui se fait à Abidjan et à Madrid, par exemple, dans cette matière ?
Alors, Abidjan, possiblement. Je sais qu'à Dakar, l'Institut français de Dakar bénéficie de l'interface en ligne de l'Institut français de Madrid et cela fonctionne bien, même si de façon générale dans la région et je pense ailleurs, mais en tout cas vraiment en Afrique de l'Ouest, les apprenants plébiscitent le présentiel, optent parfois pour un présentiel enrichi, donc c'est-à-dire la classe plus des activités annexes en ligne. Mais voilà, le partage concrètement avec Madrid, il peut se faire par des échanges d'outils qui ont fait la preuve en Europe et qui peuvent intéresser en Afrique de l'Ouest.
Alors on va voir tout de suite à Madrid, quel est le point de vue de Patrick Karl. Donc est-ce qu'il y a des partages possibles et est-ce que vous pouvez dire qu'avec cette pandémie, le cours est définitivement sorti de la classe ?
Alors, quand vous parlez alors des cours, alors que nous avons fait avec l'Afrique, en fait, nous formons alors des tuteurs qui utilisent un cours en ligne, alors qui est fait par l'Institut français alors de Madrid. Donc ça, c'est une chose, si vous voulez. Et alors, cette expérience que nous avons accumulée nous a servi évidemment à affronter la pandémie et l'après alors pandémie. Et en effet, dans ce cadre-là, on collabore beaucoup avec différents pays alors d'Afrique, et pas seulement le Sénégal, la Gambie, etc. L'Afrique du Sud aussi.
Et sur l'autre aspect de la question, est-ce que vous pensez que le cours est sorti de la classe ?
Ah oui, alors tout à fait. Hein. Je pense que de toute façon, aussi bien les enseignants que les apprenants ne se contentent plus maintenant alors du cours en présentiel d'avant la pandémie, parce que la communication continue hors des murs. Alors c'est assez paradoxal parce qu'on est content de rentrer dans les murs, mais en même temps, notre expérience que nous avons accumulée pendant toute cette période nous permet alors d'en sortir, si vous voulez. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on utilisait beaucoup d'outils auparavant qui permettaient déjà cela, qui établissaient une dynamique favorable à l'apprentissage du français. Mais je pense que maintenant, alors tous ces outils-là sont employés de façon beaucoup plus systématique, ils sont vraiment intégrés dans des activités précises. Et on pourrait dire que ce sont des outils donc, qui nous permettent de sortir de la classe et qui sont sur le même pied que nos manuels. Je vais vous donner un exemple. Avec mes C2, ils ont un groupe de WhatsApp dans lequel ils échangent alors énormément, aussi bien des choses personnelles, si vous voulez, mais aussi alors des documents. Et là, si vous me permettez, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. J'ai l'impression que l'une des grandes modifications de l'avant et l'après-pandémie, c'est peut-être que le principe de la classe inversée, c'est-à-dire on envoie du travail aux apprenants en amont, avant le cours, et on s'appuie sur ce travail pendant le cours, est devenue beaucoup plus évidente. Et donc, ça fait sortir d'une certaine manière, si vous voulez, la classe hein, lors des cours, puisqu'en amont, il y a du travail, on va s'appuyer dessus pendant le présentiel et après, en aval, en fait, on pourra beaucoup partager. Hein. On partage énormément maintenant.
C'est ce que vous appelez l'apprentissage de façon asynchrone. J'ai appris un mot.
Voilà. En fait, si vous voulez, alors on a tendance à opposer le présentiel et le distanciel. Mais en fait, il vaudrait peut-être mieux parler parfois alors de synchrone, c'est-à-dire ce qu'on fait en présentiel. On est ensemble, on est dans le même temps. Et l'asynchrone, c'est-à-dire on est dans un temps alors différé. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui existait bien sûr auparavant, mais c'est de plus en plus évident dans nos pratiques de classe.
Déborah Gros, est-ce que sur le site RFI Savoir, vous avez aussi intégré ces évolutions ? Est-ce qu'il y a du travail asynchrone qui est proposé ?
Oui, tout à fait. Alors maintenant qu'on est aussi, nous, beaucoup plus conscients de cette nécessité pour les profs de fournir avant, après leur cours, de la matière, en fait, on essaie dans le choix des extraits d'émissions qu'on va proposer aux enseignants et aux apprenants sous forme d'exercices, de fiches pédagogiques, etc., on va essayer de coller au maximum aux thématiques des manuels scolaires. Et par exemple, parmi les dernières publications, on a une fiche pour le niveau débutant A1 sur la ville, le quartier, décrire sa ville, se situer dans la ville. Et là, on a utilisé une carte postale sonore enregistrée en Inde qui va permettre d'éveiller ce travail. Et puis sur la musique, un rendez-vous culture sur la musique rap pour que les apprenants écoutent l'émission, puis présentent à leur tour un artiste et son style musical. Voilà, on essaie de rentrer vraiment dans la peau du prof pour qu'il puisse trouver matière.
Avec des jeux. J'ai le sentiment que les jeux se sont de plus en plus imposés dans les méthodes d'apprentissage.
Alors ça, c'est sûr, effectivement, parce qu'il y a cette nécessaire créativité face à l'écran, face au vide, face à la froideur, entre guillemets, d'un cours à distance. Il faut titiller, demander, utiliser des forums, il faut montrer des images, il faut faire réagir. Et ça, effectivement, ça passe par le jeu et par le ludique.
Alors, on ne peut plus opposer enseignement à distance et enseignement en présence, mais pour les étudiants, cela fait quand même une petite différence. Cécile Avolo a rencontré deux étudiants qui suivent des cours de langue à Sciences Po pour obtenir le certificat professionnel. L'un et l'autre sont des jeunes adultes arrivés en France il y a 3 ans. Il y a par exemple El Fatih qui est soudanais et pour lui, tout roule.
En fait, moi, quand je suis arrivé en France, je ne parlais pas la langue française et j'ai commencé mon apprentissage en regardant des vidéos sur YouTube. Et par moi-même, tout seul. Et ça ne m'a pas posé de problème de continuer pendant la pandémie, parce que j'ai 6 heures de cours de français, flow, français, langue étrangère, à Sciences Po. Mais aussi, en restant à la maison, ça m'est égal. Et puis, c'est normal pour moi. Je continue à écouter des émissions, de regarder certains films. Écouter de la musique aussi, et puis lire, faire une activité à la maison.
Quels outils vous ont proposé vos professeurs pendant la pandémie pour continuer à apprendre ?
Nous, pendant la pandémie, on a continué nos cours à distance, par Zoom. La majorité des cours étaient par Zoom. Mais après, on écrit sur le Drive, il y a des documents partagés, voilà. Ils nous envoient des audios, des enregistrements, voilà, plein d'outils.
À la satisfaction d'El Fatih, un autre étudiant de ce cycle de Sciences Po met quand même un bémol, c'est Hakim, lui, il est afghan.
Pendant la pandémie, c'est trop mal passé. En fait, on reste toujours chez nous à apprendre le français. Il faut qu'on fait intégration dans la société française, parler avec le français. Et la seule chose qui reste un problème pour nous, de parler avec le français. Si on parle français avec les Français, on apprend bien le français. Et c'est une chose qui reste un problème pour nous.
Le manque d'immersion et de contact, donc pointé par cet étudiant. Mariella Constantinescu, vous qui enseignez à Bucarest dans un cadre similaire, c'est-à-dire du français professionnel, est-ce que vous faites le même constat ? Est-ce que vos étudiants vous réclament de la présence ?
Non, pas tout à fait. Je n'étais pas en fait surprise de constater que, une fois passé sur le numérique, les apprenants ont apprécié, et surtout les professionnels, puisque j'enseigne à des apprenants qui travaillent. Et donc, ils ont apprécié ce type d'enseignement et ils désirent continuer. D'ailleurs, à Bucarest aussi, on a tout de suite intégré nous aussi des concepts tels que l'enseignement comodal, c'est-à-dire hybride, qui alterne le présentiel et le distanciel, et la classe inversée aussi, et même la sophrologie, c'est-à-dire le souci du bien-être en classe, donc pour faire face à ce nouveau défi. Et en faisant un sondage parmi les apprenants, ils sont tout à fait d'accord de continuer à apprendre en ligne.
Donc vous avez intégré de nouveaux outils dans les méthodes que vous proposez en ligne.
En fait, on bénéficie nous aussi de cette interface en ligne qui est proposée par l'Institut de Madrid, mais on a adapté les cours qu'on donnait en présentiel. Et donc, pratiquement, on a le même découpage d'une séquence pédagogique, d'accord ? Les choses n'ont pas beaucoup changé, mais on fait plus attention aux activités brise-glace, par exemple, et à créer le climat de confiance pour que les apprenants prennent le risque de prendre la parole.
Une question à chacun d'entre vous, avec une réponse si possible assez rapide. Est-ce que cela veut dire que le manuel, c'est fini ? Et avec ces méthodes numériques, est-ce que le niveau est toujours le même ? Est-ce qu'il est toujours aussi bon ? Ou ça baisse, comme disent pas mal de profs ? Patrick Carl.
Ah non, je crois que le niveau est toujours aussi bon, hein. Ça n'a jamais baissé. En tout cas, les manuels ont déjà évolué, hein. On a des manuels numériques maintenant. Et il est évident, il y a quelque chose, si vous voulez. Le manuel, en fait, choisissait pour le professeur un certain nombre de documents, d'accord ? Or, maintenant, je crois que l'une des tâches principales du professeur, c'est aussi, dans cet infini de documents, c'est de faire des choix. Alors qu'avant, les choix, si vous voulez, ils étaient faits par le manuel. Donc je pense que ça va être, en tout cas, rééquilibrage entre manuel distanciel.
Céline Desbos, on a compris que en Côte d'Ivoire à Abidjan, le manuel, ça compte toujours. Est-ce que le niveau, avec cette alternance de numérique et de présentiel, continue à être bon ?
Oui, oui, le niveau reste le même, un très bon niveau. C'est vrai que les apprenants sont plus autonomes, donc vont être plus dans cette logique d'activité asynchrone, souvent par eux-mêmes, sur la base de liens ou d'activités que le professeur va conseiller. Et ensuite, le manuel, pour rejoindre ce que disait le collègue, je pense qu'il va rester quand même très présent dans les salles de classe parce qu'il constitue une trame, parce qu'il permet de suivre les attendus du cadre qui est le nôtre. Mais effectivement, les enseignants vont de plus en plus alterner, en tout cas c'est ce que je vois aujourd'hui, entre des ressources hors manuel et ce que propose le manuel.
Mariella, votre point de vue depuis Bucarest très rapidement ?
Bah écoutez, l'utilisation du manuel n'est pas du tout caduque. Les maisons d'édition ont déjà proposé depuis longtemps des versions numériques, numérisées, que l'on utilise avec succès en classe. Du côté des apprenants, les progrès sont tout aussi remarquables en distanciel qu'en présentiel. Et puis, je pense qu'aussi, il faut faire une réflexion sur le rôle de l'enseignant aujourd'hui. En quelques mots, je pense qu'il va rester un expert en contenu, mais peut-être qu'il doit davantage, réfléchir à la dynamique interpersonnelle, d'accord ? Puisqu'aujourd'hui, avec cette période que nous venons de traverser, l'enseignant est plutôt un facilitateur d'apprentissage, d'accord ? C'est plus l'enseignant classique, mais c'est lui qui accompagne, qui oriente l'apprenant, mais surtout qui l'encourage vers l'autonomie.
Donc, si je vous comprends bien, c'est plutôt pas mal le numérique. Ce qui manque quand même, c'est la récré avec les copains et la déconnade. Or, ici, avec Lucie, on adore ça, c'est la puce.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Alors aujourd'hui avec vous, c'est la récré, presque comme toujours.
Heureusement, il y a une vie en dehors de la classe et pour tous les cancres qui ont du mal à suivre les cours, à la récré, c'est les doigts dans le nez, René. Une puce, donc très évocatrice et très distinguée, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. Et pour parler de cette expression,
de pas les manger.
Les doigts dans le nez, René, je reçois Sylvie Brunet, là aussi, ça rime. Mais au fait, qui est ce René qui se fourre les doigts dans le nez ? Les enfants ont leur petite idée.
Les doigts dans le nez parce que c'est pas quelque chose de compliqué à faire. Et René, juste pour que ça rime et que ça rajoute quelque chose d'humoristique dans la phrase.
Je pense que ça devait être un paysan sans doute parce que je suis pas sûre que quelqu'un de riche ou de noble se mette un doigt dans le nez. Et il a remarqué que c'était quelque chose du quotidien et que c'était surtout très facile à faire, très rapide. Et du coup, il s'est dit, s'il n'y a pas forcément des expressions pour dire que c'est très facile, donc on peut peut-être utiliser ça. Et je pense qu'il y avait un autre paysan qui est venu. Il a dit, c'est le doigt dans le nez, René.
Moi, des fois, je me mets les doigts dans le nez.
C'était pas forcément un paysan, c'était une personne normale qui a, par exemple, mis ses doigts dans le nez pour se boucher le nez et plus pouvoir respirer. Donc, il a respiré par la bouche et il s'est dit, les doigts dans le nez, quoi. C'est simple de respirer par la bouche. Donc, en fait, il y a toujours une solution à notre problème et c'est facile.
Alors Sylvie Brunet, les doigts dans le nez, René, évidemment tous les enfants connaissent le sens de cette expression. Par contre, pour l'origine, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce qu'il faut être un paysan pour se mettre le doigt dans le nez? Heureusement, non.
Non. C'est un quidam, en fait. C'est le premier Pékin venu. C'est ce sens-là qu'a notre René à ce moment-là. Mais l'expression, elle est plus ancienne que ça. Elle remonte au 19e siècle. Et c'est Gaston Esnault qui a écrit sur les argots qu'il avait relevé. À la fin du 19e, tout début du 20e, quand on voulait dire que des coureurs avaient remporté une course très facilement, c'était surtout pour ce qui était des courses de chevaux, on disait « il a gagné les doigts dans le nez ».
C'est aussi simple que de se mettre les doigts dans le nez, quoi.
Voilà. Et après ça, il y a eu l'ajout de ce « René » qui est venu, l'expression étant devenue très à la mode au début du 20e siècle, on a rajouté ce « René » qui, bien entendu, apporte une rime riche avec le nez, donc il s'imposait. On n'avait pas le choix, on n'allait pas mettre Christine à côté. Donc.
Alors moi, je dois bien vous avouer que je connaissais les doigts dans le nez, mais je ne connaissais pas les doigts dans le nez, René. Est-ce qu'on l'utilise aujourd'hui encore en entier?
C'est vrai qu'on l'utilise moins, mais elle est encore courte. Et toutes les expressions qui sont basées sur des rimes, qui font intervenir des prénoms juste pour le jeu phonique, elles ont beaucoup de succès, effectivement.
Alors, si on reste dans les synonymes de « les doigts dans le nez », par exemple, on peut dire « à l'aise blaise ».
Bien sûr. « Tranquille, Émile ».
Facile. Ou « dans le mille, Émile ».
Ou « dans le mille », absolument, oui. Et ce qui est intéressant à dire, c'est que les prénoms, ils peuvent servir pour plusieurs expressions. Les prénoms ne s'usent pas.
Tout juste Auguste.
Absolument. Il y en a même de très récentes. J'ai rencontré, ça fait pas très longtemps, un LOL Anatole, qui est très mignon, parce qu'il y avait déjà quelque chose qui existait avec Anatole, c'était Sacole Anatole, et maintenant on peut dire LOL Anatole.
En tout cas, quand on dit « dans le mille et mille » ou « tout juste Auguste », c'est le contraire de « embraye Mireille ». Quand on dit à quelqu'un « allez, vas-y, dépêche-toi ».
Et ça peut même être, au sens figuré, quelqu'un qui n'arrive pas à trouver ses mots, ou bien dont l'idée n'est pas claire, on va lui dire « vas-y, embraye Mireille ».
Et puis, au contraire, quand tout se passe bien, c'est cool Raoul, quoi.
Oui, là aussi, c'est l'euphonie. Et on remarque un petit peu la même chose, c'est que ce sont des prénoms, souvent, qui sont datés, qui sont surannés.
Mais c'est vrai que d'avoir ces prénoms un petit peu vieillots ajoutés aux expressions, ça fait qu'on a une certaine tendresse pour ces expressions.
Oui, et puis ça fait qu'elles nous permettent, ces expressions, de dire plein de choses qu'on ne pourrait pas.
Tu m'étonnes, John.
Tu m'étonnes, John. D'ailleurs, ce qui est très amusant avec Tu m'étonnes, John, c'est que très récemment, on a fait Tu m'étonnes, Elton. À cause d'Elton John.
Ah.
Il y a des petites références comme ça qui sont amusantes, des échos qui se passent d'une décennie à l'autre. Voilà. Et en même temps, nous sommes tous des créateurs. Par exemple, quand vous vous retrouvez dans un repas et que vous êtes coincé à côté de quelqu'un et que le pain se trouve à l'autre bout de la table, vous allez dire « passe-moi le pain, Alain ». Et votre voisin, il va être beaucoup plus amusé et il va vous passer tout de suite le pain. « Passe-moi le riz, Henri ». Et vous êtes sûr de voir le pain et le riz arriver tout de suite à vous.
Merci Sylvie Brunet, c'est du gâteau de faire des puces avec vous. Il faut dire que ça colle, Anatole. Excusez ma familiarité, mais j'ai envie de dire, si mère Albert, d'être venu nous réjouir avec ces expressions tout en rime et pleines d'humour. Je rappelle que votre livre 300 expressions qui jouent avec vos prénoms vient d'être réédité aux éditions de L'Opportun. À très bientôt Sylvie Brunet.
À bientôt, merci.
Sylvie Lucie, c'est la pile. Non, pardon, c'est la puce. Patrick Carl, est-ce que vous avez, je crois que oui, une expression comme ça en mémoire, une expression de récré qui vous ait fait rire ou que vous n'avez pas compris immédiatement?
On pourrait en inventer une, justement, avec le distance, je sais pas, vive le distance Laurence, ou quelque chose comme ça. Non, je pense. Et avec le présentiel, certainement pareil.
Merci beaucoup, Patrick Carl, Mariella Constantinescu, Céline Desbos. Merci aussi à vous, Déborah. Et bonne journée du prof de français dans le monde. C'est demain. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo et Guillaume Ploquin à la réalisation. Demain, c'est une autre expression célébrissime de Molière qui sera au cœur de notre émission, le petit chat est mort, diffusion d'une version écourtée et actualisée de L'École des femmes jouée par la Comédie-Française. À demain.